Chapitre 18. Rappelant à lui toute la force de son génie et de son caractère pour surmonter l'agression de l'Autriche, il combina son plan et se hâta d'en venir à une prompte exécution. Il était à craindre qu'il ne fût poussé ou surpris au défilé des montagnes noires, car ses forces étaient faibles et on l'eût réduit à la défensive s'il eût laissé opérer la concentration des masses autrichiennes. Tann, Abensberg, Eckmühl, Ratisbonne virent le rapide triomphe de nos armes et signalèrent l'heureux début d'une campagne d'autant plus grave que nous faisions, contre les règles d'une saine politique, deux guerres à la fois. La levée de boucliers de Schill en Prusse nous révéla tout le danger. Ce major prussien, arborant l'étendard de la révolte, venait d'être lancé par les Schneiderlestein, chef des Illuminés. C'était un timide essai que faisait la Prusse. Il tint à peu de choses que les peuples de l'Allemagne septentrionale ne vinssent dès lors, par imitation, à s'insurger comme les peuples de la péninsule. Pressé entre deux guerres nationales, Napoléon eut succombé 4 ans plus tôt. Ceci me fit faire de sérieuses réflexions sur la fragilité d'un empire qui n'avait d'autre appui que les armes et d'autre mobile qu'une ambition effrénée. Nous respirâmes après l'occupation de Vienne, mais Schill courait encore en Saxe et les Viennois se montraient irrités et exaltés. Il y eut plusieurs émeutes dans cette capitale de l'Autriche. Bientôt, les premiers bruits sur la bataille d'Essling vinrent renouveler nos transes et aggraver nos inquiétudes. À ces bruits succédaient les informations confidentielles presque toutes désolantes. Non seulement l'âne, le seul ami de Napoléon qui fut resté en possession de lui dire la vérité, avait péri glorieusement, mais on comptait 8 000 morts, 18 000 blessés, parmi lesquels 3 généraux et au-delà de 500 officiers de tout grade. Si, après tant de pertes, l'armée fut sauvée, elle n'en fut pas redevable à Napoléon, mais au sang-froid de Masséna. Qu'on juge de notre perplexité dans Paris et combien il nous fallut d'efforts et d'adresse pour jeter un voile sur ce grand échec qui pouvait être suivi de plus d'un désastre. Quant à Napoléon, il se proclamait victorieux dans ses bulletins, et s'il n'avait pas profité de la victoire, il en accusait d'une manière assez triviale le général Danube, le meilleur officier d'Autriche. En effet, on ne pouvait s'expliquer l'immobilité de l'archiduc après tant de pertes de notre part et après que nous n'avions pu trouver de refuge que dans l'île de Lobau. Plus le bulletin était impudent, plus on faisait de commentaires. Les nombreux ennemis que Napoléon avait en France, soit parmi les républicains, soit parmi les royalistes, se réveillèrent. Le faubourg Saint-Germain redevint hostile et il y eut même quelques menées dans la Vendée. On se flattait déjà tout haut que la journée d'Essling porterait un coup fatal à l'empereur. On était si préoccupé des événements du Danube qu'à peine alors fit-on attention aux événements de Rome. Il nous était réservé à nous, philosophes, enfants du XVIIIe siècle et adeptes de l'incrédulité. Il nous était réservé, dis-je, de déplorer, comme impolitique, l'usurpation du patrimoine de Saint-Pierre et la persécution du chef de l'Église par celui même que nous avions élu notre dictateur perpétuel. Un décret de Napoléon, de la fin de mai, avait ordonné la réunion des États romains à l'Empire français. Qu'arriva-t-il? Le vénérable pontife, cramponné sur le siège de Rome, se voyant désarmé, dépouillé, n'ayant à sa disposition que ses armes spirituelles, lança des bulles d'excommunication contre Napoléon et ses coopérateurs. Tout cela n'eût été que ridicule si les peuples y fussent restés indifférents, si l'indignation publique n'eût pas ravivé la foi presque éteinte en faveur de l'opiniâtre pontife des chrétiens. Ce fut alors que, soutenant une espèce de siège dans son palais, Pie VII en fut arraché par la force et enlevé de Rome pour être confiné à Savone. Napoléon savait combien je répugnais à de pareilles violences. Aussi n'eut-il garde de m'en donner la direction. Ce fut la police de Naples qui s'en chargea. Les principaux instruments contre le pape furent Murat, Salicetti, Miollis et Radé. Il me fallut prendre beaucoup sur moi quand le pape eût gagné le Piémont pour qu'on ne lui fît pas franchir les Alpes. C'eût été sur moi qu'on aurait fait peser volontiers la responsabilité des dernières scènes de cette persécution qui parut généralement odieuse et déloyale. En dépit de la réserve de l'administration et du silence de ses organes, tout l'intérêt se porta sur Pie VII, qui, aux yeux de l'Europe, fut considéré comme une illustre et touchante victime de l'avide ambition de l'empereur. Prisonnier à Savone, Pie VII fut dépouillé de ses honneurs extérieurs et privé de toute communication avec les cardinaux, ainsi que de tous les moyens de publier des bulles ou de convoquer le concile. Quel aliment pour la petite Église, pour la turbulence de quelques prêtres et pour la haine de quelques dévots. Je prévis dès lors que de tous ces levains se reformeraient les secrets associations que nous avions eu tant de peine à dissoudre. En effet, Napoléon, en défaisant tout ce qu'il avait fait jadis pour calmer et concilier l'esprit des peuples, les disposait de longue main à s'isoler de sa puissance et même à s'allier à ses ennemis dès qu'ils auraient le courage de se montrer en force. Mais cet homme extraordinaire n'avait encore rien perdu de sa vigueur belliqueuse. Son courage et son génie l'élevèrent bientôt au-dessus de ses fautes. Ma correspondance et mes bulletins qu'il recevait tous les jours à Vienne ne lui dissimulaient pas le fond des choses ni le fâcheux état de l'esprit public. Tout cela changera dans un mois, m'écrivait-il. Une autre fois, en parlant de l'intérieur, je suis bien tranquille, vous y êtes, furent ses propres expressions. Jamais je n'avais accumulé sur ma tête tant de pouvoir et autant de responsabilités. Je réunissais à la fois dans mes mains le ministère colossal de la police et, par intérim, le portefeuille de l'intérieur. Mais j'étais rassuré parce que jamais les encouragements de l'empereur n'avaient été si positifs, ni sa confiance si étendue. Je touchais à l'apogée du pouvoir ministériel, mais en politique, l'apogée conduit souvent à la roche tarpéienne. L'horizon changea presque subitement. La bataille de Wagram, livrée et gagnée 45 jours après la perte de la bataille d'Essling, l'armistice de Znaïm, consenti 6 jours après la bataille de Wagram et la mort de Schill, nous ramenèrent des jours sereins. Mais dans l'intervalle, les Anglais apparurent dans l'Escaut avec une formidable expédition qui, plus habilement conduite, aurait pu amener des chances heureuses pour nos ennemis et donner le temps à l'Autriche de se rallier. J'appréciais le danger. Investi dans l'absence de l'empereur d'une grande partie de son pouvoir par le concours de deux ministères, je donnai l'impulsion au conseil dont j'étais l'âme et je fis passer des mesures fortes. Il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait sauver la Belgique. Les troupes disponibles n'auraient pas suffi à préserver cette partie si importante de l'Empire. Je fis décider, sans le concours de l'empereur, qu'à Paris et dans plusieurs départements du Nord, une levée extraordinaire de gardes nationaux aurait lieu immédiatement. J'adressai à cette occasion à tous les maires de Paris une circulaire qui contenait la phrase suivante: Prouvons à l'Europe que si le génie de Napoléon peut donner de l'éclat à la France, sa présence n'est pas nécessaire pour repousser les ennemis. Qu'il croirait. La phrase et la mesure firent ombrage à Napoléon, qui, par une lettre adressée à Cambacérès, ordonna de suspendre la levée dans Paris et où tout se borna, pour le moment, à la nomination des officiers. Je ne soupçonnais pas d'abord le vrai motif de cette suspension pour la capitale, d'autant plus que partout ailleurs, la levée s'opérant sans obstacle et avec rapidité, nous donna une quarantaine de mille hommes, tous équipés et pleins d'ardeur. Rien n'entrava plus les mesures que j'avais fait adopter et à l'exécution desquelles je présidais avec autant de soin que de zèle. Il y avait longtemps que la France n'avait donné le spectacle d'un pareil élan de patriotisme. Dans son voyage aux eaux de Spa, la mère de l'empereur en fut tellement frappée qu'à son retour, elle m'en félicita elle-même. Mais il fallait un commandant général à cette force nationale auxiliaire qui allait se réunir sous les murs d'Anvers. Je ne savais trop sur qui faire tomber le choix quand Bernadotte arriva inopinément de Wagram. Le jour même, à peine eus-je appris son retour, que je le proposai au ministre de la Guerre, duc de Feltre, qui se hâta de lui expédier sa commission. Quelle fut ma surprise, le lendemain, quand Bernadotte m'apprit, dans l'épanchement de l'intimité et de la confiance, qu'ayant tenu la gauche à Wagram et les Saxons qui en faisaient partie s'étant mis en déroute, l'empereur, sous ce prétexte, lui avait ôté le commandement et l'avait renvoyé à Paris, que pourtant son aile s'était à la fin bien comportée, mais qu'on ne l'avait pas moins blâmé au quartier général d'avoir, dans un ordre du jour, adressé à ses soldats une espèce de proclamation approbative. Qu'il imputait cette nouvelle disgrâce à des rapports malveillants faits à l'empereur, qu'on se plaignait beaucoup de Savary, chargé de la police secrète de l'armée, que Lannes, ayant eu avec lui les scènes les plus violentes, avait pu seul le réprimer, mais que depuis la mort de ce brave des braves, le crédit de Savary n'avait plus de bornes, qu'il épiait les occasions d'aigrir l'empereur contre certains généraux sur lesquels planaient des préventions, qu'il allait même jusqu'à leur imputer des connexions avec la société secrète des Philadelphes, dont on faisait un épouvantail à l'empereur en supposant, sur les plus vagues indices, qu'elle avait dans l'armée des ramifications dangereuses. D'après ces motifs, Bernadotte montrait de la répugnance à se charger de la commission d'aller commander la levée des gardes nationaux de l'Empire appelés pour la défense d'Anvers. Je lui représentais que c'était le moment, au contraire, de se rétablir dans l'esprit de l'empereur, que j'avais déjà contribué plusieurs fois à les rapprocher et à dissiper entre eux plus d'un nuage, que dans le haut rang qu'il occupait, s'il refusait de remplir la commission que venait de lui conférer le ministre de la guerre, il aurait l'air de prendre l'attitude d'un mécontent et de fuir l'occasion de rendre de nouveaux services à sa patrie. Qu'au besoin, il fallait servir l'empereur malgré lui-même, et qu'en faisant ainsi son devoir, c'était pour la patrie qu'on se dévouait. Il me comprit, et après d'autres épanchements mutuels, il se mit en route pour Anvers. On sait avec quel succès le mouvement s'opéra. Il fut général dans nos provinces du Nord, et les Anglais n'osèrent tenter un débarquement. Un si heureux résultat et la conduite sage de Bernadotte contraignirent Napoléon de renfermer en lui-même les soupçons de son mécontentement. Mais, au fond, il ne pardonna jamais à Bernadotte ni à moi cet éminent service, et notre liaison lui devint plus que jamais suspecte. D'autres informations particulières qui me vinrent de l'armée coïncidèrent parfaitement avec ce que m'avait dit Bernadotte au sujet des Philadelphes dont l'organisation secrète remontait au consulat à vie. Les associés ne s'en cachaient pas. Leur but était de rendre au peuple français la liberté que Napoléon lui avait ravie par le rétablissement de la noblesse et par son concordat. Il regrettait Bonaparte premier consul et regardait comme insupportable le despotisme de Napoléon comme empereur. L'existence présumée de cette association avait déjà donné lieu à l'arrestation et à la détention prolongée de Mallet, Guidal, Gindre, Piquerel et Lahorry. Dans ces derniers temps, on soupçonna le brave Houdet, colonel du 9e régiment de ligne, d'avoir été porté à la présidence des Philadelphes. Une lâche délation l'ayant signalé comme telle, voici quelle fut la malheureuse destinée de cet officier. Nommé général de brigade la veille de la journée de Wagram, on l'attira le soir même qui suivit la bataille dans un guet-apens à quelques lieues de là, dans l'obscurité de la nuit, où il tomba sous le feu d'une troupe qu'on supposa être des gendarmes. Le lendemain, il fut trouvé étendu, sans vie, avec 22 officiers de son parti, tué autour de son corps. Cet événement fit grand bruit à Schönbrunn, à Vienne et dans tous les états-majors de l'armée, sans qu'on eût aucun moyen de percer ou d'éclaircir un si horrible mystère. Cependant, depuis l'armistice, les difficultés s'aplanissaient lentement. On ne voyait point arriver la conclusion du nouveau traité de paix avec l'Autriche, mais toutes les lettres présentaient la paix comme infaillible. Nous en attendions la nouvelle d'un moment à l'autre quand j'appris que l'empereur, passant la revue de sa garde à Schönbrunn, avait failli tomber sous le fer d'un assassin. Rapp n'eut que le temps de le faire saisir, Berthier s'étant mis devant l'empereur. C'était un jeune homme d'Erfurt, à peine âgé de 17 ans et poussé uniquement par un fanatisme patriotique. On trouva sur lui un long couteau bien affilé avec lequel il allait commettre son crime. Il avoua son dessein et fut passé par les armes. Le traité de Vienne fut signé peu de jours après, 15 octobre. Napoléon, vainqueur et pacificateur, revint presque aussitôt dans sa capitale. Ce fut de sa bouche même que nous apprîmes combien il avait eu de difficultés à surmonter dans cette pénible campagne et combien l'Autriche s'était montrée forte et menaçante. J'eus avec Napoléon plusieurs conférences à Fontainebleau avant sa rentrée dans Paris. Je le trouvais très aigri contre le faubourg Saint-Germain qui avait repris ses habitudes satiriques et mordantes. Je n'avais pu me dispenser d'informer l'empereur qu'après la journée d'Essling, comme après Bayonne, les beaux esprits du faubourg avaient répandu le bruit ridicule qu'il était frappé d'une aliénation mentale. Napoléon en fut singulièrement offensé, et il me parla de sévir contre des êtres qui, dit-il, le déchireraient d'une main et le sollicitaient de l'autre. Je l'en dissuadai. Ah, c'est de tradition, lui dis-je, la Seine coule. Le faubourg intrigue, demande, consomme et calomnie, c'est dans l'ordre. Chacun a ses attributions. Qui a été plus calomnié que Jules César? Je réponds d'ailleurs à votre majesté que parmi cette troupe, il ne trouvera ni des Cassius, ni des Brutus. Du reste, les plus mauvais bruits ne sortent-ils pas des antichambres de votre majesté? Ne sont-ils pas propagés par des personnes qui font partie de sa maison et de son gouvernement? Avant de sévir, il faudrait établir un conseil des 10, aller aux écoutes, interroger aux portes, les murailles, les cheminées. Il est d'un grand homme de mépriser les captages insolents et de les étouffer sous une masse de gloire. Il se rendit. Je savais qu'après la journée de Wagram, il avait balancé s'il ne démembrerait pas la monarchie autrichienne, qu'il avait plusieurs plans à ce sujet, qu'il s'était même vanté de distribuer bientôt des couronnes à des archiducs qu'il supposait mécontents ou aveuglés par l'ambition, mais qu'arrêté par la crainte d'éveiller les soupçons de la Russie et de soulever les peuples de l'Autriche, dont l'affection pour François II ne pouvait être révoquée en doute, il avait eu le temps d'apprécier une autre difficulté dans l'exécution de son plan. Il exigeait l'occupation militaire de toute l'Allemagne, ce qui ne lui eut pas permis d'éteindre la guerre de la péninsule qui réclamait toute son attention.